Alléluia.
Gloire à Dieu.
Alléluia.
Gloire à Dieu.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Asseyez-vous. Je vois que vous êtes de très bonne humeur.
Ouais.
Vous êtes joyeux. Oui, j'ai vu les danseurs, j'ai vu les applaudisseurs. Bien-aimés dans le Christ, nous avons encore un dimanche en partage avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons encore un dimanche de joie en Jésus-Christ. Nous avons encore un dimanche de service avec l'Esprit Saint. Depuis un peu plus de deux mois, nous sommes en train de faire des enseignements assez denses. Assez denses, nous allons accélérer, augmenter cette densité. À partir de la première semaine de janvier 2017, nous allons avoir deux enseignements par semaine. C'est-à-dire que nous aurons un enseignement le mercredi et un autre qui équivaut au culte le dimanche. La modification que je viens d'annoncer implique que désormais, je ne recevrai pas le mercredi, mais plutôt le jeudi. Je vais recevoir le jeudi à partir de 12h de la première semaine de janvier. Lorsque je serai disponible, bien entendu, parce que je ne suis pas toujours dans la ville de Douala. Et je voulais vous dire que les enseignements de mercredi auront la particularité de ne pas être accompagnés d'un culte, mais c'est uniquement un enseignement. Et il est vrai que de nombreux dons sont en train de s'allumer depuis pratiquement trois semaines dans le ministère. J'ai eu à repertorier dons de guérison, dons de délivrance, paroles de sagesse, dons de prophétie. Il est vrai que tous ces dons sont en train de s'allumer et que le travail que nous sommes en train de faire, c'est pour que les uns et les autres aient un plus grand confort dans la connaissance de la parole et la mise en pratique de celle-ci. Il est aussi vrai que l'augmentation des enseignements va pas seulement avec l'ouverture des dons spirituels, mais l'augmentation des enseignements aura une inflexion particulière, ce qu'elle va amener au bout de plusieurs mois à l'ouverture des dons ministériels. Lorsque dans un ministère, on arrive à un certain niveau d'enseignement, le Seigneur suscite des vocations. Lui seul maîtrise la méthodologie, c'est comme ça que ça se passe. Ceux qui prendront très au sérieux tous ces enseignements auront la grâce de devenir pour certains des prophètes, pour certains des évangélistes, pour certains des pasteurs, pour certains des docteurs qui vont suivre le programme nécessaire jusqu'à y arriver. Mais c'est absolument incontournable l'appropriation des enseignements. Si vous avez des blocs déjà remarquablement chargés depuis pratiquement plus de deux mois, qui vont être un peu plus chargés, puisque là, la cadence des enseignements va augmenter, les enseignements vont de plus en plus avoir un caractère technique. Donc c'est quelque chose qui n'est pas banal. Dans nombre d'autres perspectives de croissance dans le ministère. Vous avez reçu des enseignements ici qui vous permettent de comprendre que tous ici présents, vous n'êtes pas des spectateurs, vous êtes censés devenir des acteurs. Devenir des acteurs tant au niveau des dons spirituels, parce que la parole l'a prévu, qu'aussi au niveau des dons ministériels, parce que le parcours des uns et des autres va y contribuer. On verra la méthodologie que le Seigneur va déployer. Et à partir du moment où on passe à ce stade-là, c'est que véritablement, le ministère va avoir une autre ampleur. Je recommande fortement, bien que le français que je parle, je recommande fortement à tous ceux qui se sont signalés comme parvenus, à tous ceux qui sont des ouvriers dans le ministère, et à toute autre personne qui a l'ambition de vraiment grandir dans tous les plans de ce que cela signifie grandir, je recommande fortement d'assister à ces deux enseignements, ceux de mercredi et ceux de dimanche. Parce que ce rythme d'enseignement, ce cadence d'enseignement va avec une récompense que Dieu va savoir gérer. On va passer à une autre étape, on va passer à une autre vitesse. Ceci signifie que, parce que l'année 2017 va être une année assez remplie en termes d'activité, en termes de voyage, en termes de croisade, etc. Au fur et à mesure que le ministère va grandir, on va arriver à un stade où si l'envoyer n'est pas là, on peut aisément assumer les enseignements pendant 2-3 semaines parce qu'il y a des relais qui fonctionnent déjà. On peut aisément traiter les malades, les patients, suivre les fidèles sans problème parce qu'il y a des relais qui fonctionnent déjà. C'est comme ça qu'une organisation doit grandir. Les problèmes dans une organisation humaine ne manquent pas. Il y en aura toujours parce qu'il faut manager, parce que de toute façon, l'ennemi est toujours en train de voir comment attaquer l'œuvre de Dieu. Et ça, ce n'est pas un problème. Vous allez grandir en expérience, vous allez grandir en sagesse, vous allez grandir en écoute, vous allez grandir en discernement. Et c'est comme ça que les uns et les autres vont commencer véritablement à être des acteurs vivants, participatif dans l'évolution du ministère. À côté de cette information, je voulais dire autre chose, parce que je risque d'oublier ce que je vais commencer par là. Vous avez reçu 12 recommandations après plusieurs semaines. J'ai donné ces recommandations afin que vous-même vous soyez les leviers qui permettent d'accélérer vos vies dès la fin de cette année 2016. Et jusqu'à pratiquement toute l'étendue de 2017. Maintenant, la recommandation, il y en a qui les suivent, il y en a qui ne les suivent pas. Il me semble permis d'attirer votre attention sur le fait que, avec Dieu, c'est le mérite. Et il est extrêmement important que chacun essaie autant que possible de mériter. Parmi les recommandations, nous avons demandé d'avoir les ouvrages qui sont disponibles. Certains ont pu les avoir, d'autres pas encore. Nous avons demandé de faire très attention à vos visions désormais. Il y en a qui ne s'en préoccupent pas du tout. Nous avons dit qu'il est bien qu'on arrive chez vous, parce que il vaut mieux que votre arrière-garde soit sanctifiée pour que vous ayez plus de facilité au processus. Nous avons parlé de l'importance à respecter la loi de la semence. Il y en a qui ne s'en préoccupent pas encore à suffisant. Nous avons parlé de la pratique. C'est tout ce que vous lisez. D'ici le 1er janvier 2017, j'aimerais que tout le monde ait eu le temps matériel de réviser les ouvrages vie affective et performance du chef professionnel. Avec les clés, les réponses qu'il y a dedans, inquiétude, avec les clés, les étapes, les réponses qu'il y a dedans, qui est formidable, avec les clés, les étapes qu'il y a dedans, et veux-tu être riche. Il y a des leviers dedans, qui doivent servir à ses fins. Je vais le dire en une seule phrase. Mon souci est que vous preniez autorité sur vous. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? En tout cas, que vous preniez autorité chez vous, vous preniez autorité dans vos vies. Il y en a qui ont lu ces ouvrages, mais ils l'ont lu de façon intellectuelle, sans voir la pratique spirituelle qui va avec. Et ça, c'est dangereux. Je connais une dame à qui j'avais donné le livre Vie affective et performance aux professionnels. Elle a lu de façon intellectuelle. Par après 6 mois, un joueur m'appelle pour dire qu'elle a le pied qui enfle et les médecins n'ont pas de réponse. Elle vient me voir au bureau. Elle dit qu'elle n'a pas mal au pied. Et que ce sont les serpents qu'elle a dans le ventre. Ils sont tellement décrits comme l'utérus que le poison qui part de l'utérus, c'est lui qui est là-bas au pied. Et après avoir fait le travail sur elle, il lui a dit de rentrer, il lui a dit qu'elle croyait que c'était un livre intellectuel, on lit seulement comme ça. Il lui a dit que c'est son traitement. Tous ces documents ont un caractère thérapeutique. Ils traitent réellement l'esprit, l'âme et le corps. Si on les lit comme si c'était un roman, on passe à côté de l'essentiel. Il n'y en a pas un seul de tout ce que vous avez vu là. Il sert juste à titre intellectuel, il sert prioritairement à titre spirituel. Donc, ceux qui n'ont pas encore pu les acquérir, ils les achètent. Ceux qui les ont achetés, on lui en dit, parce qu'il est rentré, j'ai dit en usant par rapport aux objectifs de cette fin d'année et début d'année 2017, et j'ai en usant, j'ai affecté les performances de ce professionnel, l'inquiétude, c'est formidable, c'est juste que c'est riche. Il y a des clés dedans que certains ont loupé, ils n'ont pas pu exploiter ces clés. Maintenant, dimanche prochain, on a dit aux uns aux autres, on va partager le corps et le sang du Christ. Je vais vous faire un petit rappel, et en m'appuyant sur la Bible. Le corps et le sang du Christ ne peuvent être consommés sans préparation. Et le Seigneur a une très précise là-dessus, qui m'en a parlé d'une prophétie. Ne peuvent être consommés sans repentance profonde. Est-ce que vous m'entendez bien? Il dit sans repentance profonde. Nous allons lire les passages là-dessus. Bon, j'ai été agréablement surpris par un principe que Dieu peut utiliser très souvent. Ceux qui savent comment créer Dieu connaissent ce principe. Et si vous venez vous parler au Seigneur de tel élément, il vous rappelle qu'il est souverain. On a vu plusieurs cas de figure de personnes qui ont reçu le baptême de feu et de Saint avant le baptême d'eau. Le baptême d'eau qui lui, effectivement, est un bassin de présentation d'une personne à Dieu. Il y en a qui n'arrivent pas à comprendre cela. Cela est possible d'abord parce que Dieu est souverain. Il peut offrir à quelqu'un le Christ par Jésus-Christ. Alors que cette personne n'a pas encore été baptisée d'eau. Et c'est le cas de beaucoup de gens ici d'ailleurs. Le baptême que Jésus-Christ a amené, c'est le baptême de feu et d'esprit. L'ancienne forme de baptême, qui était le baptême de présentation d'un enfant à Dieu, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Ces deux baptêmes ont leur sens. Et ici même d'ailleurs, on fera le premier dès que le Seigneur nous donnera des instructions. C'est le baptême d'eau. On en a parlé une seule fois, mais pas revenu là-dessus. Et bien, un problème dû au fait qu'il y a des courants théologiques qui s'opposent dans cette affaire. Il y en a qui estiment qu'on ne peut pas prendre le corps et le sang du Christ sans avoir baptisé, c'est-à-dire du baptême d'eau, précisément. Il y en a d'autres qui estiment que la consommation du corps et du sang du Christ, à titre prophétique, a son sens, en tant qu'action prophétique. C'est deux écoles qui s'affrontent sur ces points de vue. Et ça, dans cette dimension-là, le Seigneur insiste sur la repentance. Il insiste sur la repentance et renvoie à certains passages que nous allons lire tout à l'heure. À savoir, que l'on comprenne, d'un côté, on ne peut pas être dans une église. On ne consomme pas le corps du Christ, qui fait partie des recommandations, on ne consomme pas le sang du Christ. En ajoutant de l'autre côté que si on le consomme dans de bonnes conditions, cela vous apporte des grâces, d'autres niveaux de délivrance et de délivration, la sanctification au minimum. Et si on le consomme dans de mauvaises conditions, cela nous apporte des malédictions. Donc ce n'est pas un sujet de jeu, ce n'est pas un sujet de légèreté. Nous sommes en train de projeter le ministère dans une dimension qui tient à ce que le Seigneur lui a prévu. Et c'est dans ce cycle-là, à ce cycle, dans cet élan-là, qu'il va y avoir le partage du corps et du sang de Christ. Nous allons avoir du pain sans Jésus. Vous parlez comme avant, le pain sans le vin. Vous allez apporter tout. Jésus de vin, vous appelez ça quoi, le choléré. Jésus de raisin. Jésus de raisin. Parce que la boisson qu'on doit consommer pour le sang de Christ doit être non alcoolisée. Il y a des variantes. Certains peuvent avoir le pain non alcoolisé. Ça existe. On va arriver à une boutique, vous achetez du vin non alcoolisé. Ou bien certains penchent pour les grenadines. Et nous avons suggéré fortement les jus de raisin. Donc, je voulais qu'on lise d'abord ce passage. Il y a deux passages. Il y a un qui fait de l'invention et l'autre qui traite pratiquement de cette question. Et sur la base du fait que ça, c'est l'autre innovation pour le mois, pour l'année prochaine. À partir de fin janvier 2017, nous aurons un programme spécial ici de guérison délivrant le prophétie. Les derniers week-ends de chaque mois, nous allons faire, on se fera une minute au hasard, on va lire ça comme ça. Mais c'est en ces jours-là qu'on va recevoir tous les problèmes de guérison, problèmes de délivrance, et y compris pour faire des prophéties quand cela est nécessaire. Ça veut dire que c'est un suivi mensuel, organisé systématiquement pour le suivi des malades, pour l'édification du feu. C'est-à-dire aussi que les semaines où ça se passera, dans quelques semaines, on doit être ensemble vendredi, samedi et dimanche, le mercredi, il n'y a pas d'enseignement, parce qu'on a trois enseignements d'affilée. Donc on fait plutôt les trois enseignements d'affilée à la fin de la semaine, vendredi, samedi et dimanche. Donc, je voudrais que vous regardiez d'abord quelque chose avant qu'on passe à l'enseignement du jour. Je vous ai dit que j'étais en train de parler des dons ministériels. La semaine dernière, on a parlé des apôtres. Cette semaine, on va parler des prophètes. Je voudrais parler trop vite, parce que ça demande quand même d'être bien digéré. Voici les passages que je voudrais que vous notiez. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Romains 10, verset 9 à 13? D'abord, Romains 10, verset 9 à 13. Et ensuite, on va aller à 1 Corinthiens 11, pratiquement de 23 à 32. Romains 10, de verset 9 à 13.
Romains 10, verset 9 à 13, il est écrit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Amen. C'est très important de comprendre cela. C'est un prérequis incontournable. Nous avons déjà expliqué ça ici plusieurs fois. Qu'on est sauvé que quand on a accepté Jésus-Christ, on a reçu Jésus-Christ, on l'a accepté comme sauveur, Seigneur. Donc, c'est d'abord le préalable. Ceux qui refusent de confesser Jésus-Christ ne peuvent pas être sauvés. C'est fondamental. Et c'est un préalable qui permet d'avancer maintenant. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre 1 Corinthiens 11, verset 23 jusqu'à 32?
Un Corinthiens 11, verset 23 à 32. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je pouvais enseigner. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est ma corps qui est rempli pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe du vin. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a permis, C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous, nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen.
Amen. Une des choses que le Seigneur m'a expliqué à ce niveau, il m'a dit qu'il ne faudrait pas que le partage du corps et du sang de Christ soit fait comme à certains endroits où les gens le font, très divin, avec un esprit d'impudicité. Et ça semble même pas seulement l'esprit d'impudicité, encore même dans le fond de ce que je voulais dire. Avec une logique d'impunité. Qui t'a provoqué le corps de Jésus-Christ, qu'est-ce qui m'est arrivé? Non. En réalité, vous ne pouvez pas faire ça ici. Si vous faites ça ici, d'abord, spontanément, là, vous allez être frappé, tout le monde va voir. Et il faudra que les uns et les autres sachent que ce n'est pas tout le monde qui se croit, mais c'est ceux qui ont accepté ce principe de la repentance en Jésus-Christ. Et de la conversion. C'est un engagement sérieux. C'est un engagement profond. Tous les ministères qui ont compris ce principe, cette recommandation, connaissent ce principe. Parmi les recommandations que Jésus-Christ a données, il y a le lavement des pieds, on a déjà eu à faire ça. Et il y a le partage du corps et du sang de Christ. C'est quelque chose qui doit être fait particulièrement pour le partage du corps et du sang de Christ. Qui doit être fait une fois par mois. Lorsque dans une église, on fait 6 mois, 1 an, sans partager le corps de sang d'église, il y a un certain nombre de problèmes qui s'installent. Tout simplement parce que la consommation du corps et du sang d'église est une véritable protection, une véritable occasion de sanctification, qui aide d'abord même les fidèles et les protège d'un certain type de danger. Donc, il y a une autre recommandation que je voulais donner. Le 25, vous avez plein de plans dans vos têtes. Vous avez plein de plans dans vos têtes. Organisons mieux la journée. Je suggère fortement que nous commencions le 25 à 8h30. Nous allons commencer à 8h30. Ainsi, on va avoir les différentes articulations qui vont se faire. Il y a un étranger qui vient, l'apôtre Gérard Olinga. Il s'est venu spécialement pour cette occasion. Il va venir avec un message très pointu. Il aura beaucoup de bonnes choses à vous dire. Il faudrait donc que le message qu'il va apporter soit écouté par le maximum de personnes. Il est possible que je parle sur le ministère de Jésus-Christ après. Mais le plus important est qu'on commence tôt. Plus on commencera tôt, mieux ça voudra. Ce qui signifie que si on a commencé assez tôt, à 13h, on aura fini. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Bon,
comme vous êtes en train de faire les calculs d'heures dans vos têtes. On se connaît. Il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne me dire. Quand je vous regarde seulement. tu vois que les gens sont les caractéristiques du verset. Il y a des gens pour qui la fête est plus importante que les enfants, les adultes, qui ont les caractéristiques du verset. Donc je voulais donner quelques recommandations là pour qu'on soit d'accord sur les grandes lignes. J'insiste énormément à ce que les uns et les autres aient la parole, si tu la lis. L'évangélisation fait partie des missions fondamentales. Et on ne peut pas faire l'évangélisation si toi-même déjà, on n'a pas grand-chose en fait. C'est pas possible. Il faut que les uns et les autres s'impliquent. Quand on veut accélérer un terrain comme celui-ci, ça va faire une mission. Il y a des gens qui seront spectateurs et les autres les acteurs. Mais chacun doit faire des choix et des actifs. Ne venez pas dire après comme vous l'avez pas dit. Maintenant, est-ce qu'on s'est donc entendu? Est-ce qu'on s'est entendu? Ok. Il y en a qui ne savent pas, ce n'est pas parce qu'elle parle doucement que je suis pas en train de parler avec les gens. Je parle doucement parce que de toute façon, le niveau répond très bien. Donc, ce n'est pas nécessaire de parler fort, puisque le niveau permet d'amplifier la voix avec efficacité. Bien! On va commencer l'enseignement sur les prophètes. À partir de cet instant, dis au voisin de se réveiller d'abord. Il n'a pas entendu, il n'a pas
entendu.
Il
y a une chose que je voudrais demander, c'est votre confort à vous. Il y a un grand nombre de personnes ici sur qui les hommes sont en train de s'allumer, il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer, mais bien sûr tout le monde est en phase d'observation, parce que bon, je ne peux faire de confirmation que sur la base du protocole que le Seigneur m'a donné. Ça prend le temps qu'il faudra. Ça peut prendre un mois, deux mois, trois mois, que je confirme quelque chose sur certains des hommes, qui sont vraiment nombreux. Parmi ceux qui ont dit qu'ils sont des partenaires et qui se sont engagés comme tels, parmi ceux qui sont des ouvriers qui se sont engagés comme tels, qui sont en train d'observer de part et d'autre, et j'ai le dossier de chacun que je regarde. La recommandation que je fais par rapport aux anciens, elle est valable pour tout le monde. Si vous voulez vraiment qu'on aille vite et que ce soit efficace, personne ne mange rien, ne boit rien dès le 24. Oui, je savais.
Elle est violente, hein?
C'est comment? C'est violent.
Il y a plein de présents.
Non, ce n'est pas une question de position. C'est une question de choix. Je voulais expliquer que pour recevoir le corps sanctifié, le Seigneur a demandé que les uns et les autres fassent une profonde repentance. C'est insister là-dessus. Parce que ça permet que les uns et les autres reçoivent le corps de sang écrit dans de bonnes conditions. J'ajoute à cela une inscription qui va permettre à certains d'avoir le bon esprit. Vous faites un jour de jeûne sec avant, vous venez ici avec, ce n'est qu'après le culte. Vous pourrez aller manger. Il y a des gens qui n'arrivent plus à me regarder. Là, le père qui nous fait, c'est le problème. Oui. Voici ce qui se passe. Vous êtes face à votre conscience. Vous êtes face à vos choix. Je ne connais jamais le gendarme de qui que ce soit. Et je viens de dire que seules les personnes qui se sont préparées convenablement, qui ont fait la repentance, sont mis dans des esprits de repentance, de conversion, vont recevoir le corps et le sang de Christ. Celui qui pense qu'il peut dribbler, on va voir ici nous dit. Et c'est compliqué. Donc chacun a sa conscience et chacun fait ses choix. Pourquoi vous voulez que j'insiste? Vous êtes vaillamment libre. De quoi avez-vous peur? De vos vies? De vos mauvais penchants? Bien. On entre entièrement chez les prophètes. Il y en a qui sont tellement contents et leurs péchés. de leur attachement au Christ. Ils ont déjà refusé l'option là de toucher son esprit. Et quand on va venir regarder les autres, on ne peut pas quitter les choses que je fais. On va parler des prophètes aujourd'hui avec, avec autant d'épaisseur que la dernière fois lorsqu'on a parlé des apôtres. Vous avez remarqué que quand on a un enseignement, c'est toujours l'occasion d'édifier le peuple et de permettre aux uns aux autres d'arriver à un certain niveau de pratique de la parole, d'appropriation de la parole. Quand on regarde un peu ce qu'on appelait les prophètes, parce qu'il y a deux phases, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'était des croyants qui s'exprimaient sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Ça, c'est la première caractéristique. C'était des croyants qui s'exprimaient sous l'impulsion de l'Esprit Saint, au nom de Dieu. Et la principale préoccupation était la vie spirituelle et la pureté de l'Église. Donc, sous la Nouvelle Alliance, c'est quoi la Nouvelle Alliance? C'est l'Alliance amenée par Jésus-Christ. Sous la Nouvelle Alliance, il était suscité et habilité par l'Esprit Saint afin d'apporter un message au peuple. Pour que les uns et les autres comprennent cette dimension, apporter un message au peuple, édification du peuple, prenez Actes 2, le verset 17. Actes 2, verset 17. On lit d'abord Actes 2, verset 17 et on va évoluer.
Acte 2, verset 17, il est écrit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions et vos vieillards auront des songes.
Amen.
Amen.
Bon, ça fait partie de la logique normale prévue par le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'un des rôles que les prophètes jouaient déjà. Il est fondamental de comprendre que si on est véritablement des prophètes, quand on regarde l'Ancien Testament, il faudrait déjà pouvoir saisir, n'est-ce pas, la signification du ministère prophétique et exercer au sein de l'Église primitive pour comprendre un peu qui étaient véritablement les prophètes. Donc, la première tâche était d'annoncer une parole de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose que je voudrais dire pendant qu'on est en train de penser, de parler à ça, de cela. Les prophètes étaient tellement rares dans l'ancienne alliance que quand on voulait avoir le point de vue de Dieu, on cherchait le prophète. Il y a des gens qui voyageaient pendant des semaines pour avoir le point de vue de Dieu sur une affaire. C'est celui qui est venu modifier cela en rendant l'Esprit Saint disponible. Et ce qui fait que toute personne qui cherche véritablement la face du Seigneur, c'est ce qu'on peut lui parler. Donc, ils étaient poussés par l'Esprit afin d'encourager le peuple à rester fidèle à l'alliance. À cette époque, c'était l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est celle de Moïse. Parce qu'il faut faire les comparatifs entre l'alliance de Moïse et l'alliance apportée, amenée par Jésus-Christ. Il est arrivé de prédire, n'est-ce pas, l'avenir, le futur, selon l'esprit que Dieu leur donnait, selon les types d'informations que l'esprit de Dieu leur donnait. Donc, à quoi est-ce que les prophètes du Nouveau Testament comparativement à l'Ancien ont servi. Déjà par rapport à l'Ancien Testament, je vous donne un exemple dont on a déjà parlé ici. Vous vous rappelez de la lecture qu'on a faite sur Isaïe. Isaïe avait annoncé Jésus-Christ 600 ans avant, avec une précision étonnante. Donc, c'est un prophète de l'Ancien Testament, servi par l'Esprit de Dieu, qui pouvait dire des choses très précises, plus de 6 siècles avant qu'elles vont arriver. Quand on regarde maintenant les nouveaux prophètes, donc, il est évident, c'est pas l'intelligence qu'Esaïe pouvait donner autant de détails sur l'arrivée de Jésus-Christ. On fera un enseignement spécial là-dessus. On fera un enseignement spécial le moment venu. On a programmé, il y a vraiment beaucoup d'enseignements. Un enseignement qui parle de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. On viendra là-dessus. Je ne parle pas aux gens qui ne veulent pas faire ce qu'ils savent qu'il faut faire. Donc, première chose dans le Nouveau Testament, les prophètes étaient des héros. Héros, c'est-à-dire H-E-R-A-U-T. Héros, c'est ici, messager. Des héros, des interprètes de la parole de Dieu, remplis de l'esprit. appelé par Dieu pour exhorter, avertir, reconforter et édifier. Pour qu'on puisse comprendre les textes bibliques qui permettent de comprendre, de cerner le rôle des prophètes dans la dimension exhortation, avertissement, reconfort, édification, vous prenez acte de l'apôtre 2, acte 2, le verset 14 à 36, acte 3, le verset 12 à 26, et 1 Corinthiens 14, 3. Acte 2, verset 14 à 36, acte 3, verset 12 à 26, 1 Corinthiens 14, verset 3. Ceux qui ont le micro commencent à prendre la lecture.
Acte 2, verset 14 à 36. Alors Pierre, se présentant avec le prince, il leva la voix et leur parla en ces termes. Homme juif, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne savent pas dire, comme vous le supposez, car la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tous ces chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai paraître des produits en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et d'une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme hébraïque, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez mieux. Cet homme, livré selon le dessein arrêté, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit de l'éternel. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point devant lui. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans la lévation. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Or, frère, qu'il me soit permis de vous dire du moment au sujet du patriarche, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme qu'il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé par la voix de Dieu, il a reçu du Père, du Saint-Esprit, qu'il avait servi et il l'a répondu comme vous le voyez entendu. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à droite, jusqu'à ce que je fasse ce que j'ai mis comme objectif. Et toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et fait ce Jésus que vous avez crucifié. Amen.
Parmi les éléments d'exhortation, éléments d'édification du peuple, une des choses qui est intéressante parmi toutes les lectures qui ont été faites là, c'est le fait qu'on parle de David comme prophète. Donc David était roi et prophète. C'est une bonne information à savoir. David fait partie des ancêtres de Jésus-Christ. Quand vous regardez les arbres généalogiques, il passe plusieurs générations avant, précisément, en 14 générations avant. On reviendra là-dessus. Au moment où. Il y a un autre passage qu'on n'a pas encore lu. Deux autres lettres. J'ai donné des références en donnant d'abord ce qui vient d'être celui, c'est-à-dire acte 2, de 14 à 36, j'ai aussi dit acte 3, de 12 à 26, et 1 Corinthiens 14, 3.
Acte 3, de 12 à 26, il est écrit. Bien voyant cela dit au peuple, homme d'Israélite, pourquoi vous déconnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité les morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce que le prophète n'écoutera pas, ce prophète sera déterminé du milieu de ceux. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en sa prospérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen.
Dans l'entendement que l'on a de ce passage, l'une des choses qui est facile à remarquer, c'est que dans ce passage, Jésus-Christ est aussi considéré comme prophète. La semaine dernière, on vous a dit que Jésus-Christ est le premier apôtre, et quand on va lire les textes, la parole, Jésus-Christ est aussi considéré comme prophète. C'est bon à savoir. Que dit le dernier passage que j'ai donné? Il est assez bref. Vous n'avez plus. Mais donnez-lui le micro.
1 Corinthiens 14, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie les autres, les console. Amen.
Celui qui prophétise, parle aux hommes, les édifie les console, les exhorte. C'est le travail du prophète. Bien. Je vois que l'esprit de distraction est ici. On ne peut pas le laisser là. Que tout le monde se lève. J'ai dit que tout le monde se lève. Et bien, enfin, tout est écrit. Vous n'aviez pas compris. Tout est écrit. À l'autorité de Jésus-Christ, je demande à l'esprit de saturer ce lieu de feu. Que tout le sol soit un tapis de feu. Que l'air tout entier soit envahi de feu. Que le feu de l'Esprit Saint vous envahisse profondément. Qui vous entoure complètement. Et que ce lieu soit totalement enflammé. Sol, tout sol, air, eau. Que toute onde négative, que tout esprit négatif qui contribue de quelque façon que ce soit à déconcentrer le fidèle ici présent, que tout esprit soit anéanti. Tout qui n'est pas de Dieu soit anéanti.
Amen.
Au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen.
Asseyez-vous confortablement sur les têtes que vous êtes.
Amen.
Qui désordait, qui encourageait, qui consolait. Mais aussi, ils exerçaient le don de prophétie. Don de prophétie que certains ont ici. C'est-à-dire qu'en temps réel, il peut avoir des informations sur le passé, le présent, le futur, concernant une situation, une personne, un moment, un événement, etc. Les prophètes exerçaient déjà le don de prophétie, c'est-à-dire qu'ils avaient. Parfois, ils étaient qualifiés de voyants. Effectivement, à l'époque, c'était une expression qui cadrait à l'appellation. Ils étaient qualifiés de voyants parce qu'ils annonçaient des événements futurs. Mais en fait, je vous dis, quand vous parlez de voyants, ça n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Quand vous parlez de voyants, vous parlez des serviteurs de l'ennemi. Certains sont les magnétiers, les
magnétiers.
D'autres, tout simplement, travaillent vivement avec un esprit impur qui est un grand manipulateur, encore appelé l'esprit de divination. Il faut faire très attention, j'ai déjà eu à parler de ça ici. L'esprit de divination peut aussi voir les anges de Jésus-Christ. Même que vous dites la vérité. Mais c'est un esprit impur. Donc il va vous donner quelques délais de vérité, après il va ajouter un mensonge. Quand le mensonge va se glisser, vous ne pourrez pas. Il faut faire très attention. Surtout les personnes c'est qui les dons de prophétie saluent sont très exposées à l'esprit de divination. Ils viennent très souvent se glisser pour arrêter les délivrances. Ils peuvent venir se glisser pour arrêter un processus. Ils peuvent venir se glisser pour garder la personne en captivité et faire croire que le travail est fini. En fait, l'une des fonctions de l'esprit de divination, c'est d'empêcher les délivrances ou bien de mettre quelqu'un en captivité à travers un flot de fausses informations. Et si vous êtes dit, c'est-à-dire que vous n'avez pas la parole, il vient remplir l'espace. Quand on vous demande de lire la parole, c'est pour vous remplir de la parole. Et afin que, au fur et à mesure où vous remplissez de la parole, vous remplissez du feu et de la lumière du Seigneur de Dieu, c'est comme ça qu'il y a de moins en moins de l'espace chez vous pour que l'ennemi puisse entrer. Si on vous montrait comment votre corps est, vous verrez que votre corps est un grand bâtiment. Un grand bâtiment. C'est des gens qui le regardent comme ça. Il y a 500 appartements dans son corps construits par les démons. Une seule personne. C'est normal si tu as à toi seul 500 appartements qui ont été construits sur toi. C'est normal que tu fasses. On te voit marcher, tu es toujours en train de faire, mais oui. C'est tellement les gens qui font la cuisine en toi. Donc, ça fait partie des problèmes réels auxquels vous devez faire attention. Oui, il y a quelque chose. Le Seigneur m'a montré quelque chose en semaine qui n'est pas un point politique. Il y a des gens ici parmi les fidèles qui ont toujours des choses qui ont pu apprendre chez les alarmes, etc. À la minute, ça a été en gros. Vous avez encore des choses comme ça chez vous. Tout ce qu'on vous a donné, qui relève de la magie ou quoi que ce soit, ramenez ça ici en bruit. On n'est pas là pour vous juger. On est là pour contribuer à votre délivrance. Et vous-même, vous devez jouer votre partie. Et il y a quelqu'un qui va dormir tranquillement, le Seigneur commence à me montrer les maisons des gens. Il y a des choses qu'ils ont à apprendre, c'est là-bas. Ramenez ça. On brûle tout. Les gris de quelque ordre que ce soit, ramenez. Vous venez donner ici, on va brûler. On va mettre des fonds au tribunal. Comment vous voulez la délivrance? Vous voulez le salut avec des choses comme ça dans la maison? J'espère faire parler à ceux qui ont des oreilles. Faites bien votre examen de conscience et ramenez ces choses. Ramenez ces chambres. Vous voyez ça comme ça, on vous a donné. Certains vous avez acheté ça. Vous croyez que c'est un objet ornemental. Oh, c'est le bijou.
Bijou par là.
Et dès que vous rentrez, que vous allez reconnexion. Vous êtes ici, vous êtes joyeux, etc. Dès que vous rentrez à la maison, allez, vous dites, oh, bienvenue. Vous pouvez recommencer à te manger. Je parle à tout le monde. C'est quand elle entre en se demandant que qu'est-ce que j'ai laissé dans cette maison qui n'est pas de Dieu et que l'envoyé a vu, alors qu'il n'est jamais venu chez moi. Bien. Donc, on est passé du livre qui permet de savoir, n'est-ce pas, pourquoi, par quoi les prophètes étaient qualifiés de voyants, parce qu'ils annonçaient les événements futurs. On peut prendre trois passages bibliques qui en parlent. En Chronique 29-29. D'abord, en Chronique 29-29, Acte 11-28. En Chronique 29-29, Acte 11-28. Et Acte 21, verset 10 à 11. Ceux qui ont les micros, que ce soit à gauche ou à droite, qui commencent. En Chronique. Chronique est après roi, dans l'Ancien Testament.
En Chronique 29-29. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète.
Regardez bien l'inflexion. On appelle Samuel voyant, Nathan prophète, alors que Samuel lui-même est un prophète. Les trois là, ce sont des prophètes. Il faut comprendre l'esprit. Acte 11, 28. Acte dans le Nouveau Testament, c'est à présent.
L'un de nommé.
Ton micro pensé.
L'un de nommé.
Acte 11 David.
Acte 11 David. L'un de nommé à Capris. Se leva et annonça par le fils qu'il y aurait une grande famille sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude.
Ça t'a dit quoi? Amen. Ça t'a dit quoi? L'Esprit de Dieu a donné une information à un prophète. Il parle d'un événement à venir. Il signale que dans l'instant, il y aura une grande famille. Ce n'est pas l'intelligence humaine qui permet de savoir qu'il va avoir une grande famille. C'est l'Esprit de Dieu. Vous vous rappelez de l'histoire de Joseph, à qui Dieu avait expliqué les 7 ans, la vision que le roi avait, mais il ne comprenait rien. C'est à Joseph que le Seigneur a expliqué, et l'Esprit de Dieu a expliqué la signification des 7 ans de sécheresse, 7 ans d'abondance. D'abord les 7 ans d'abondance, et après les 7 ans de sécheresse. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Acte 21, de 10 à 11. Micro, donnez-lui le micro, s'il vous plaît.
Quand nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Acabie descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit : voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Amen.
Amen. Tu veux bien la tête, c'est quelque chose d'assez intéressant. Acabie est un prophète. Mais il rencontre Paul qui est un apôtre. Et lui annonce qu'il va être torturé. Qu'il va connaître des tribulations. Et lui montre même comment on va l'attacher. Comment on va lui attacher les mains, les pieds. Et lui explique. C'est l'Esprit Saint qui utilise le prophète Acabie pour donner une information, une nouvelle à Paul. Et ce qu'il est à l'entourer. Quand le prophète va en informer un autre sur un événement, c'est normal, c'est vrai depuis les anciens temps, c'est vrai encore aujourd'hui. Alors, parce que vous êtes prophète ou apôtre, on ne peut pas vous apporter de nouvelles. On va aller en profondeur, vous allez comprendre. Dans l'instant des prophètes de l'Ancien Testament, ceux du Nouveau Testament étaient appelés à dénoncer le péché, ça c'est une chose très importante, à proclamer la justice, à avertir du jugement à venir, à combattre la mondanité. Et la tiédeur parmi le peuple. Donc, c'est toujours ce souci là d'éloigner le peuple des désirs de la terre, de l'amener beaucoup plus dans la logique spirituelle. C'est beaucoup plus cela. C'est l'une des missions qui est incontournable. Vous pouvez lire Luc 1. Luc 1, de 14 à 17. Alors vous êtes en train de prendre Luc 1, de 14 à 17. Il faut savoir qu'à cause de leur message de justice, les prophètes et leurs ministères ont souvent été rejetés par bon nombre de croyants au sein des églises. Bon, ce n'est pas fondamentalement nouveau. Parce que de toute manière, le prophète n'est pas toujours compris. Les églises ont un certain mode de fonctionnement traditionnel avec des principes, des hommes, etc. Et très souvent, la volonté de Dieu, qui a une volonté, qui n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Rappelez-vous, il dit dans la parole que vos pensées ne sont pas les miennes. Un homme peut trouver une chose profondément insensée, alors que pour Dieu, c'est tout à fait logique. Parce que Dieu qui sait le vrai contenu de la chose et le fait sens de ce qu'il est en train de faire. Il dit dans la parole que vos pensées ne sont pas les miennes. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Luc 1, 14, 17? J'aimerais le micro là-bas, s'il vous plaît.
Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, et ni vin, et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères et des enfants et les amener à la sagesse des vies afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé.
Ce passage est en train d'annoncer l'arrivée de qui? Jean-Baptiste. C'est important de comprendre. C'est un passage qui annonce l'arrivée de Jean-Baptiste, l'esprit de Jean-Baptiste étant l'esprit d'Élie, d'après ce passage. Mais faites attention, parce que quelqu'un va vous dire que non, la Bible enseigne la réincarnation, ça c'est un enseignement de la haute croix. Je veux vite bloquer cette affaire. Il n'y a pas de réincarnation pour quelqu'un qui connaît Christ. Laissez la sorcellerie là-bas. Vous êtes tombé sur les sorciers qui vont faire un témoignage que oui, je suis mort de ce côté, après je suis né de l'autre, etc. Mais je n'aime pas comme ça. Je vous préviens. Les bouddhistes enseignent ça, la haute croix enseigne ça. Beaucoup d'entre vous ont lu des livres qu'il ne fallait pas lire. Là, ils me regardent bien comme ça, c'est rien de fait. Oui. Donc, n'admettez pas l'enseignement à la réincarnation, ce n'est pas un enseignement chrétien. C'est le seul moment où on dit qu'un prophète est venu avec l'esprit de l'autre. Oui, Jean-Baptiste est venu avec l'esprit de lui. Mais ça ne veut pas dire que c'était une réincarnation. Il faut demander à l'esprit de la vraie signification de ce que cela dit. Et cela est. Au lieu de commencer à nous dire que même la Bible dit ça nous. Non. Donc, c'est bon comme certains ont effacé certains livres de leur tête. Écrit par des pseudo-grands maîtres. Dans le caractère du prophète, son fardeau, son désir, ses capacités incluent plusieurs paramètres. C'est très important de vous aider sur ces paramètres. Le zèle pour la pureté de l'Église. Une grande sensibilité, n'est-ce pas, au mal. Une capacité à identifier les défaites d'injustice. Une prise de conscience du danger des fausses doctrines et une dépendance naturelle vis-à-vis de la parole de Dieu pour valider le message du prophète. Ça, c'est quatre caractéristiques des prophètes, plein une cinquième caractéristique. C'est un désir ardent de partager les sentiments de Dieu et de s'assurer, n'est-ce pas, du triomphe spirituel de son royaume. On va aller dans les passages qui nous permettent de comprendre cela. Jean 17, le verset 15 à 17. Jean 17, le verset 15 à 17. C'est le premier passage qu'on vous donne sur la partie qui concerne les ailes pour la pureté de l'Église. Accompagné de 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 11.
Jean 17, verset 15 à 17. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vertu. La parole est la vérité.
Amen.
Amen.
Ce passage est très important. Il y a certains bonnes églises qui sont dangereux ici dehors. Ils utilisent le passage de façon vraiment traumatisante. Ils ne sont pas du monde, ils ne sont pas dans le monde, etc. C'est-à-dire qu'il y a des divers qui s'organisent dans les familles. Vraiment, toi tu es Satan. Toi tu es le Seigneur perdu. Mais oui. On a lu le passage là, on a dit d'exclure quelqu'un. On a dit d'abord que comme ta mère est Satan, ton père est Satan.
Non.
C'est alors quoi cette perversion? Jésus-Christ prie pour ce qu'on lui a donné. Afin qu'il soit préservé de ce que le monde est. Et il dit, je dans le monde. Mais ça n'allait pas commencer à détourner ça jusqu'à dire, quand vous rentrez ici là. En tout cas, quand il manque plus de salut, vous êtes dans le monde là, nous on est pas avec vous. C'est le diable qui est chez vous. Et Dieu nous en est de son côté. Et c'est très grave. On m'a appelé parce que il y avait un monsieur qui avait dit que sa femme ne doit plus faire quoi. Il m'a suivi à la prière. Il a dit, papa, il a mis chez moi, chez ça. Que pourquoi ma femme ne veut pas venir, elle ne veut pas venir, moi, elle divorce. On m'a appelé, dis-le que je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai pas de quoi dire. Ce n'est pas les femmes qui font ça, c'est l'homme qui fait ça. Ayez toujours le regard de responsabilité par rapport à l'Esprit Saint, le regard d'évangélisation, le regard de participation à la conversion des autres. Plus la femme a un regard de décision, de jugement des autres. Beaucoup de gens ont des problèmes avec ça. Quelqu'un a commencé le pouvoir de prière, mais sa femme n'est pas d'accord. Quelqu'un a commencé le pouvoir de prière, mais son mari n'est pas d'accord. Mais prie pour que l'Esprit Saint touche son cœur. Que aussi ta vie soit transformée. Tu peux commencer à mettre les étiquettes Satan, quelqu'un. Satan. Diable. Démon. Quand tu n'as pas de relation avec l'Esprit, c'est quand même celui qui a un vrai contenu dedans. Il ne faut pas me poser les bonnes questions. Quand il est déjà arrivé au moins à la moitié du cadre du 10e de ce bon attend. Comment? Non, tu es obligé de faire les divisions et les divisions. C'est parce que tu es arrivé à la moitié du quart du millième. Ce n'est pas la table. Pour valider même que c'est une vraie relation avec les étiquettes. Tu commences à poser les étiquettes dans ta table. Ils disent souvent à l'heure qu'on a eu conséquence. Donc, ce patin gardait le. En comprenant le principe qui veut que, on vit au milieu des gens, cependant, on ne doit pas vivre comme eux. Vous comprenez? On vit au milieu des gens, mais on ne doit pas vivre comme eux. On ne doit pas être attaché au péché, aux futilités, à la souveraineté, à la superficialité, à la chair, etc. On doit comprendre pour être des hommes d'esprit, et non des hommes de chair. C'est la vraie signification. Ne transformez pas ça en étiquetage. Que partout où j'ai cette vie, c'est danger. Je suis un peu d'un niveau, on fait le mieux de l'âge. On est le mieux de l'âge. Mais c'est très grave. Où? Que vous avez dit ça? C'est même d'abord ta part en voix. Et si tu as vraiment bien fait ta part, vous avez reçu l'enseignement et si tu fais l'intercession, tu peux intercéder jusqu'à ce que les trucs aiment tout son frère, tout ton père, tout ta mère. Tu peux les étiquettes aux gens. Tu peux les étiquettes aux gens, juste parce que tu commences à être le partage de la maison. C'est quand tu m'as appelé, ça t'a dit, je viens là. Voilà pour faire cette attention, c'est le petit enseignement qui vont contribuer à changer vos comportements. C'est quand 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 11, et le dernier passage en cette phase de zèle pour la pureté de l'Église. C'est Galates 5, le 22, 22 à 25. 1 Corinthiens 6, 2, 9 à 11. Oui.
Le savez-vous pas que les injustes ne seront point le royaume de Dieu?
Tu conviens lui, là. Voilà. Parce que les gens qui satanisent les autres brutalement par les étiquettes n'ont pas bien compris. Lis encore.
Ne savez-vous pas que les injustes ne seront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les bigots, ni les outrageux, ni les ravisseurs,
mériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous.
Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de votre Dieu.
Amen. 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 Voilà. Merci. Je commence par le cela. Les pères reconnaissaient, ils connaissaient. Ça va être. Peut-être qu'ils allaient faire le verset 22 à 21. Parce que quand les gens sont parlés du zèle pour la pureté de l'Église, on est en train de s'enfreindre là-dedans. On finit par Galates 5, 22 à 25. Après, on va parler d'une grande sensibilité au mal et une capacité à identifier et à détecter l'ennemi.
Galates 5, versets 22 à 25. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres. Confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là.
Il est en train de lire, le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit qui sont une caractéristique majeure d'un chrétien.
La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont coulé sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet esprit. Amen.
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 Alors, un prophète a aussi une grande sensibilité au mal, une capacité à identifier, à détecter l'injustice. Prenez Romains 12, 9 et Hébreux 1, verset 9. Romains 12, 9, Hébreux 1, verset 9. Pour voir, n'est-ce pas, cette capacité à identifier et à détecter l'injustice.
Romains 12, 9. Que la charité soit sans discipline. Ayez le mal en horreur. Attachez vos comportements au Dieu. Amen.
Amen.
Ayez le mal en horreur, attachez vos portements au...
Yes.
Amen.
Amen.
C'est pour nous tous. Oui. Même pas pour les autres.
Oh.
Que dit Hébreux 1, 9? Je n'entends pas au micro.
Hébreux 1, 9. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'as ouvert une île de joie au-dessus de tes égaux.
Amen.
Quelqu'un a compris le passage là? C'est un passage que le Seigneur m'a adressé pour m'expliquer pourquoi il avait accordé des grâces spéciales à ce ministère.
Amen.
Même malgré tout ce qui a eu comme événement, malgré la tempête et tout ce qui s'est passé. Je ne vous dis pas comme ceci. Peut-être que là, certains vont se rendre compte. Quelles que soient les circonstances que vous êtes en train de vivre, entendez bien ce que je vous dis. Quelles que soient les circonstances que vous êtes en train de vivre, quels que soient les événements que vous êtes en train de vivre, Dieu regarde toujours le cœur avec lequel vous faites une chose. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous pourriez être dans une déroute due à une manipulation, cette information, peu importe. Mais Dieu regarde qu'avec quel cœur lui est en train de faire des choses. Dieu, ce n'est que par rapport à ce qu'on est raison ou pas, ce n'est pas ton débat. Quel est le cœur que tu utilises dans la maison de Dieu en situation? C'est extrêmement important. Dans ce ministère, il y a une tempête. Quand la tempête est finie, moi j'ai dit, il a continué à augmenter les choses, augmenter. Et maintenant que je dis que mes papas, ça allait très mal. Mais comment est-ce que ça s'est quand même passé? C'est là qu'il me sort. Il a aimé la justice. Il a engagé le cœur avec lequel je faisais la chose. Il s'est préoccupé du cœur avec lequel je faisais la chose. Raison pour laquelle, même si ça s'est passé de la façon la plus difficile, la plus complexe, c'est à cause du cœur avec lequel moi je me suis seulement attaqué à la justice. Que lui a donné une voix au-dessus de mes vies. Amen. Dieu regarde ta vie, le cœur avec lequel tu fais une chose. C'est extrêmement important. C'est pendant qu'il parle de l'humilité extrême qu'il attire l'attention sur le fait que non, tu n'es pas juste un apôtre, tu es un apôtre hors échelle. Et quand tu ouvres des temps, tu as appris, c'est là qu'il me sort la bouche là. C'est comme vous dites en Jésus, tout le bateau, ça veut dire que le cœur avec lequel tu as fait une chose. Et on va avoir le mauvais cœur, oh.
Oui,
oh. Parce que si tu as le mauvais cœur, Dieu te voit,
oh. Oui, oh.
Bon. Vous voulez venir avoir mon secret. Je la parle dessus. Donc, vu que ma caractéristique n'est pas parfaite, par exemple, qu'on voit chez les prophètes, c'est une prise de conscience du danger, des fausses doctrines. Et là, il est bon pour les gens. Et Matthieu 7, 5. Et Matthieu 24. 11 et 24. Matthieu 7, verset 15. Matthieu 24, 11 et 24. Parce que ça, c'est très bon pour les enseignements que vous avez déjà reçus avant, à venir compléter. Matthieu 7, 15. Matthieu 24, 11, 24. Pas de 11 à 24, 11 et 24. Matthieu 7, verset 15. Matthieu 24, 11 et 24. Et enfin, vous avez Galates 1, 9.
Matthieu 7. Verset 15.
Oui.
Gardez-vous de faux prophètes.
Mmh.
Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs.
Gardez-vous des faux. C'est un signal d'alerte. Il faut faire très attention. La menace est réelle et elle est permanente. C'est pourquoi nous vous formons afin que vous ayez des connaissances suffisamment épaisses et que vous ne soyez pas facile à dévier ou à détourner. Que dit Matthieu 24, le verset 11 et le verset 24?
Nous devons pour ce fait que nous avons, et ils se diront beaucoup de gens. Verset 24. Car il se lèvera de faux fils et de faux prophètes. Ils feront de grands produits et des miracles, au point de séduire qui les échappent, même les élus.
Amen.
Amen. Bon, c'est un message qu'il faut prendre très au sérieux parce que cette menace est déjà réelle. Elle existe. Elle est là au milieu de nous, dans nos villes et dans les villages. Que dit Galates 1:9?
Nous l'avons déjà dit, et je le redis maintenant. Si quelqu'un parle, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, que Dieu le rejette. Amen.
Vous avez entendu. C'est la parole qui dit en haut. L'autre caractéristique des prophètes, c'est une tendance naturelle vis-à-vis de la parole de Dieu pour valider le message du prophète. Vous avez Luc 4, verset 17 à 19. Vous avez 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. Luc 4, verset 17 à 19. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. Amen. C'est Jésus-Christ qui a donné le livre d'Isaïe. Il ouvre une partie qui concerne sa venue. Et quand il finit de lire comme ça, il dit qu'aujourd'hui cette parole est accomplie. Et là, la poubelle le tabasser sur le temps. Donc, eux, ils ont la prophétie. Ils s'attendaient à ce que la prophétie se passe comment? Que Jésus descende avec un cheval blanc, tout le monde le voit descendre. Ils connaissent ce que ça dit. Non. Vos pensées ne sont pas les miennes. Les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Il faut avoir toujours le recul pour comprendre cela. Sinon, vous allez vous faire avoir. Vous allez croire que tout ce que Dieu vous demande de faire doit être cohérent selon vos intelligences. Non. Si vous pensez que tout ce que Dieu vous demande de faire doit être cohérent selon vos intelligences, vous n'allez rien apprendre, vous n'allez pas évoluer. Avec Dieu, il faut d'abord avoir comme idée première l'obéissance à la parole et l'obéissance à ses instructions. Si c'est d'abord, tu vas comprendre après. Et ils ont dit que ce n'est pas lui. Que c'est qui? Ce n'est pas le fils du charpentier avant. Comme le bâtard dit, il est même un homme. Il pense même que quoi? Ils ont régné tout ça, tout ça. Or, c'était lui. Dieu a planifié une minorité d'individus savaient que c'était le moment. Ils sont venus accueillir l'enfant. Les rois mages. Il y avait une minorité. Et quelques autres personnes. Il y avait un homme qui aimait beaucoup Dieu. Dieu lui avait promis qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le sauveur. Ce vieux papa-là a vu le Jésus. Et il a dit qu'il avait vu Jésus-Christ. Il est mort en tête. Dieu lui avait dit. Mais les autres estimaient que non. C'est les intelligents qui vont savoir comment Dieu va agir. La surprise est la surprise, ils n'ont rien compris. Donc il est très important au niveau de la marque, c'est d'avoir toujours conscience du fait que nous sommes dans un processus permanent d'apprentissage. Et dans ce processus permanent d'apprentissage, le plus important est de se préoccuper de savoir est-ce que c'est Dieu qui parle et qu'a-t-il dit de faire. Ce n'est pas de savoir est-ce que moi je suis d'accord avec ce que Dieu a dit. Il faut vraiment poser les bonnes questions et se poser les bonnes questions. Je dis donc, Aurélien vous parlait. Il y a des gens qui sont là, ils sont sceptiques. Quand même, ils réussissent l'exploit d'être sceptiques. C'est les gens qui parlaient, c'est toi, je les connais, non, toi, nous ne venons pas retenir ce nom. On parle les noms des gens, on a vu une liste des gens qui sont grands âgés, qui sont bien assis. Ils expriment même ceux qui sont très forts. On te dit que va prier, va répéter le programme. Quand tu es venu, je ne me rappelle pas son nom, même pas le prénom. C'est depuis que tu es arrivé, tu as dit que nous, frère, tu es. Comment il a fait? Il ne doit pas être de Dieu. Ça doit être un voyant. Ce n'est pas normal qu'il connaisse toutes les personnes-là. Je ne connais pas ta vie, je ne sais rien de toi. Les morts parlent sur toi, les vivants parlent sur toi, tout ça. On te donne la liste des gens qui font les théories que vente d'avoir brisé ta vie. Et ta réponse instantanée, c'est le scepticisme que. Est-ce que c'est même vrai? Dis vous nous ça. On te le refuse. Je n'ai pas obligé, je n'ai pas retenu un tel nombre de toutes les personnes qui ont reçu de vie. Je m'en fous. Je fais le travail, c'est un instrument de terrain, on continue. Si je veux retenir les noms des gens, ben allez, mille noms, deux mille noms là à terre. Non, l'important c'est que les âmes viennent au Père par Jésus-Christ, c'est tout. Il n'y a pas à retenir les noms. On leur a dit même que voici les gens pour lesquels ils vous ont amené en enfer, dans en fait votre vie en enfer, et qu'ils comprennent pourquoi aller prier, leur réponse à Dieu c'est que, comme si quelqu'un m'a amené, hein. Moi, je lis souvent dans mon cœur, hein, je c'est pour la tête. Je ne suis plus personne. J'ai mal souvent une façon de me parler que, il me demande que tu suis qui? Je finis le travail, j'étais oublié, je vais me continuer. Je donne les recommandations, je continue. Je ne suis plus un facteur, je viens ici. Si quelqu'un comprend qu'il faut chercher Dieu, et a compris qu'il a accès à l'envoyer du Dieu créateur, à un endroit où il y a l'onction, il vient lui-même se servir. C'est le seul service. Et c'est vrai. Ceux qui ne sont pas dans le repas, je considère que le terrain ne les a pas invités. Donc il y a un délit en âme de partager, n'est pas les sentiments de Dieu. Et de s'assurer que du triomphe spirituel de son royaume. Est-ce qu'on peut lire ensemble Matthieu 21? On a déjà lu Matthieu 21? Non. De 11 à 13. Et encore Matthieu 23, 37. Matthieu 21, de 11 à 13. Matthieu 23, 37. Okay. Bon, on n'a pas lu ça. Celui qui a ça sous les yeux qui dit 1 Corinthiens 15, de 3 à 4. Et les passages qui sont toujours ici. Et celui qui est là, calé sur Matthieu 21, 11 à 13, il reste là-bas.
En Corinthiens 15, 3 à 4, il est écrit. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen.
Ok. Nous sommes d'accord là-dessus, nous pouvons avancer. Matthieu 21, de 11 à 13. Il y a quelqu'un qui a un micro derrière.
Matthieu 21, du verset 11 à 13.
Oui.
C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée.
C'est qui?
C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée, répondait les gens. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient ou qui achetaient à cet endroit. Il renversa les tables, les changeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons. Puis il leur dit, dans les Écritures, Dieu déclare, on appellera ma maison maison de prière. Mais vous, habitatez, vous en faites une caverne de voleurs. Amen.
Amen.
Jésus-Christ arrive là où il y a un temps où les gens font le commerce. Ils commencent à saccager tout. Et beaucoup n'ont même pas compris la dimension prophétique de cet acte. Il était en train de démontrer à travers cet acte, parce que maintenant certains vont comprendre cela. Jésus-Christ est en train de démontrer que dans les temps futurs, lors de sa deuxième venue, il détruira tout ce qui compte du business dans la maison de son père.
Amen.
C'est le sens prophétique de cet acte-là. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il a discuté de cela avec certains hommes d'église ou de religion, je ne sais pas comment les appeler, dans une émission où on parlait de l'émission de la religion et du pouvoir. Voici les cinq reproches que Dieu fait aux églises. Premier reproche, le fait d'avoir converti le peuple à la religion, eux de le convertir à Dieu. Entendez bien. Ils ont converti le peuple à la religion, au lieu de le convertir à Dieu. Deuxième reproche, ils font du business dans la maison du Père, alors qu'ils n'en ont pas eu l'autorisation. Si Dieu fait le business dans la maison du Père, que ce soit ton instruction, c'est un moment de la question comme ça, tout. Tu commences à faire un business comme ça, il t'a dit que c'est dans le programme. Tu vas où? Troisième reproche, et comme c'est un patient, je vous avais utilisé ça comme argument. Premier reproche, le fait d'avoir convaincu le peuple à la religion, le de le convertir à Dieu. C'est très important de comprendre ça. Deuxième reproche, le fait d'avoir le père du business dans la maison du père. Alors qu'ils n'en ont pas l'autorisation ou le mandat. Troisième reproche, le fait d'abreuver le peuple de mensonge, au lieu de lui enseigner la vérité. Ils ont tordu le cou à la parole et ils véhiculent les trucs tordus. Parce que c'est avantageux pour eux. Bon, il y en a qui aiment quand c'est juste, c'est là qu'ils prennent ça au sérieux. Si je faisais aussi comme d'autres personnes que vous me rencontrez, on paye le bien, c'est quoi qu'on me prendrait plus au sérieux? Non, c'est vrai. Il y a plein d'hommes de Dieu, de vrais hommes. Après ça, ils ont viré Pian. Mais non. On dit les fidèles là ne me donnent pas assez de gombo. Moi, je vais créer mon gombo. Hein. Le géant s'est fait entre des hommes. Pour rencontrer le berger, 5 000, le géant. Ça, c'est le mot de c'est le plus petit montant. Est-ce que c'est ça qu'on t'a dit de faire? Qui t'a dit? Donc, première chose, convertir, le fait d'avoir converti le peuple à la religion, au lieu de le convertir à Dieu. Deuxième chose, le fait de convertir, de faire du business. Troisième chose, ils abreuvent le peuple de mensonges et lui enseigner la vérité. Quatrième chose, c'est là les gars commencent à être forts. Ils ont fermé la porte qui mène au paradis alors que eux-mêmes ils vont pas entrer. Cinquième chose, c'est la totale qui doit remplacer Dieu. J'explique. Peut devenir des instruments qui aident à connaître le chemin. Le chemin qui amène les gens vers le Fils divin. Qui amène les gens vers le Fils. La parole. Ils ont dit que non. Nous, on amène plus. C'est nous-mêmes la destination. Ils sont devenus la destination. Au lieu d'être des instruments qui amènent vers Jésus-Christ. Ça, c'est trop fort. Donc là, les gars ont remplacé Dieu. Par conséquent, on donne les enseignements qui rendent le moins possible les fidèles indépendants. Le fidèle ne doit pas apprendre à se débrouiller sans le berger. Si après le berger va commencer à pleurer, un fidèle est né, 1 heure, 2 heures, 3 heures, il lui faut toujours avoir le berger à côté. Il a un aide spirituel établi. Parfois, le berger a la connaissance, mais il ne veut pas diffuser la bonne connaissance qui rend indépendant, non. Il garde ça dans son ventre, comme ça vous devez venir, comme ça vous allez payer des audiences, vous allez payer les gîtes, payer les semences spéciales et payer les canaux spéciaux pour avoir encore ses faveurs. C'est une dérive terrible. On a vu des bergers devenir inquiets quand un fidèle est parti. Mais ça dit l'important, quand il est tranquille, vous voyez. Ça fait moins de 100%, mais on va nous montrer comme ça. Pas avec la ville d'un million, ça fait quoi à qui? Est-ce que celui qui sait Dieu doit être accroché à ces choses-là? Il y a des hommes inspirés ici dehors. J'ai vu une vidéo d'un humoriste qui montre comment certains hommes de Dieu bénissent en fonction du niveau de dîme reçu. C'est un problème. C'est une vidéo du Nigeria. Vous voyez comment les gens sont? Oui. Il y a d'abord un premier qui fait la vie, dit okay, que Dieu te bénisse vraiment, le cœur est depuis du ciel pour toi. Et pendant qu'il entre, il fait ça, un autre sort, il y a qui t'apporte, ça craque. Tu dis que ta bénédiction est finie. Tu regardes ça. Oh, pourquoi Dieu te bénisse et la voix même brûlée. Quand le troisième arrive, avec beaucoup plus d'argent, tu vas à Dieu, vous écoutez, la Dieu dit que non, c'est moi qui m'a donné cette voix. C'est déjà un gros corps. Vous voyez comment l'argent détourne les hommes de Dieu? Donc, quand c'est petit argent, il te fait petite bénédiction. Quand ça commence à être gros argent, tu vas avoir une bénédiction, les abonnés, la sorte est sanctifiée. La bien la densité. Si c'est gros argent, non, lui-même, il te met à genoux à ta personne, non, laisse-moi. C'est 5 choses, gardez-les à l'esprit. 1. Le fait que les gens aient été convertis à la religion, au lieu qu'ils soient convertis à Dieu. 2. Le fait qu'on fasse du business alors qu'on en a fait l'autorisation. 3. Le fait d'abreuver le peuple de mensonges. 4. Le fait d'avoir fermé la porte qui mène au paradis. Parce que si les gens ne vous mettent pas dans les relations personnelles avec Jésus-Christ, ainsi, individuel et avec les chrétiens, il a fermé la porte. C'est une chose. Le fait que les gars aient trouvé bon de remplacer Dieu. Ils ne sont plus les instruments pour amener à Dieu. Ils sont les personnes incontournables pour résoudre les problèmes. Beaucoup d'entre vous ici sont déjà capables de prier et guérir eux-mêmes. Ou de prier et guérir leurs enfants, leurs frères et sœurs. Pas demander quoi d'autre que le respect des consignes qu'on vous donne. Et nous, c'est ce qu'on est en train de vouloir, c'est pas là. Et je comprends pourquoi les gens étaient étonnés ici il y a 2 semaines. Quand on a lu le passage qui montre que tout le monde a droit aux hommes spirituels, le temps s'est arrêté. Les gens me regardaient comme ça que le père, blague à part, c'est sérieux. Les pasteurs vous n'a pas souvent enseigné ça. C'est des passages que vous devez connaître. Et vous devez savoir, c'est votre droit d'avoir une relation personnelle avec les Christ. C'est normal. Dieu va vous parler vous-même, de jour comme de nuit, de temps de veille comme de temps de soleil. Vous ne devez venir vers le berger que quand son onction et son autorité sont indispensables. Et si à ce moment-là, j'ai un petit problème de ventre, vous appelez à envoyer. Si le content de mon sac, si on lance du sang de Jésus-Christ, que l'Esprit s'est anéanti ce mal de ventre, tout le suite. Un petit sorcier te dérange, si tu n'as autorité sur lui depuis la maison, tu te mets à genoux, si tu fais l'Esprit Saint face de ma parole, le feu et le feu. Quand tu parles là-bas, le sorcier, tu lui parles, il est au pénitent, il est gentil comme un toutou, il ne sait pas que c'est un petit sorcier qui parle, c'est quelqu'un qui a tout le contrôle. Apprenez à fonctionner avec l'Esprit Saint. Donc, ne dormez plus haut. On a lu Matthieu 21, 11 à 13. On a lu Matthieu 23, 37. Avançons. Si on a déjà lu Matthieu 21, 11 à 13. Oui, on évolue. Et que la prochaine personne prépare Jean 2. De 14 à 17. C'est quoi? Quel est le manque d'inspiration? Le micro est là.
Matthieu 23, 37.
Oui.
Jérusalem. Jérusalem. Qui tue les prophètes? Et qu'il lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu.
Amen. Pour que vous compreniez, on dit ici que le prophète a un désir avant de partager les sentiments de Dieu et de s'assurer du triomphe spirituel de son royaume. Là, c'est Jésus qui est en train d'exprimer le sentiment de Dieu vis-à-vis de Jérusalem. Par rapport à ce que Jérusalem a développé une vraie expertise à torturer les prophètes. Dès qu'on lui envoie un bon prophète, d'abord il ne le reconnaît pas en plus, il fait la guerre jusqu'à le tuer. Donc, Dieu est dépité par ça. Il a un sentiment de dépité, mais regarde les gens, c'est que depuis je vais aider. On leur tend la fête depuis ils ne font rien. Donc, c'est le sentiment de Dieu. Que Jésus-Christ, le prophète, à ce moment-là, est en train d'exprimer. Donc, ça fait partie de la norme. Jean 2, 14 à 17. Jean 2, 14 à 17.
Jean 2, 14 à 17. Il est écrit. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa le table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen.
Amen. Jésus s'exprime à ce moment un sentiment, c'est le sentiment de colère du Dieu par rapport à ceux qui viennent faire le commerce dans le temple de son Père. Qui est son temple en lui, ce qui est du Père et du Fils. Puisque le Père est en le Fils est en le Père. Donc les messages du prophète ne doivent pas être considérés comme infaillibles. Ça, c'est quelque chose d'important. Ils doivent être évalués par l'Église, par notre prophète, ainsi que par la parole de Dieu. La congrégation va discerner et éprouver les esprits afin de voir si leur témoignage vient de Dieu. C'est très important, c'est la deuxième et la troisième fois que nous donnions cet avertissement. Pour que les uns et les autres prennent conscience du danger qu'il y a dans le monde spirituel et du fait qu'ils puissent avoir des messages qui ne sont pas de Dieu. Pour avoir des références, vous prenez 1 Corinthiens 14, de 29 à 33. 1 Corinthiens 14, 29 à 33 et 1 Jean 4, verset 1. 1 Corinthiens 14, 29 à 33, 1 Jean 4, verset 1. Pendant que vous êtes en train de chercher, nous évoluons. Donc le prophète demande un élément essentiel au plan de Dieu pour l'Église. Une Église qui rejette les prophètes de Dieu est une église en déclin. Et elle se laisse entraîner dans la mondanité et dans le compromis quant à la vérité biblique. Les passages qu'on a donnés sont clairs, vous pouvez les lire. On a dit qu'il faut quand même étudier, examiner les paroles des prophètes, mais on n'a pas dit qu'il faut rejeter les prophètes. Ça fait très attention. Vous comprenez la nuance? Voilà. On n'a pas dit que l'envoyé a dit de rejeter les prophètes. Hein. On a dit d'examiner les déclarations, voir si elles sont en harmonie avec la parole. Oui.
Pour ceux qui sont des prophètes, que Dieu vous croit pas, que les autres disent. Et si un autre qui est assis a une autre révélation, que le Seigneur vous aide. Car vous pouvez tout prophétiser facilement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté.
Amen.
Amen.
Bien. On a déjà parlé de ça ici. Là, ça c'était un exclamé que si quelqu'un ne peut pas, il n'a pas interprété ce texte. Donc, il n'y a pas besoin de revenir ici. On a notre passage qui permet de comprendre que il est important d'écouter les prophètes. Un client vient immédiatement après, il n'y a pas de confusion. Il faut examiner les prophéties, mais il est extrêmement important d'écouter les prophètes. Parce que quand on refuse d'écouter les prophètes, on se plonge dans la mondanité, les compromis, quant à la vérité biblique. Et ça commence à amener les gens véritablement à la dérive. Il y a trois passages, Matthieu 23, de 31 à 38. Matthieu 23, de 31 à 38. Luc 11, 49. Matthieu 23, de 31 à 38, Luc 11, 49, et Actes des Apôtres 7, de verset 51 à 52. Matthieu 23, 31 à 38, Luc 11, 49, Actes 7, verset 51 à 52. Passons par là, c'est important.
Matthieu. Bien-aimé, n'agissez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont du Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen.
Amen. Ok, on a déjà parlé de cet avertissement, on va venir maintenant
à Matthieu. Matthieu 3, verset 31 à 36. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les gens. Vous passerez du verre les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Amen.
Amen.
Là, ça concerne les personnes qui ont refusé de reconnaître les prophètes. Par l'autorité de Jésus-Christ, je déclare que ceci n'est pas votre partage. Luc 11, 49 et Actes 7, 51 à 52.
Luc 11, 49, il est écrit. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres.
Amen. Actes 7,
51 à 52. Actes 7, 51 à 52.
Non, on parle bien, pourquoi on entend bien? Pourquoi?
Homme, au courage.
Arrêtons d'abord là. C'est quoi un homme au courage? C'est quelqu'un qui ne se retourne pas pour se rappeler du passé. Mm-hmm. Un homme au courage. Il y a des hommes comme ça. Il y a des femmes comme ça. Mm-hmm. Dieu a fait des choses pour toi. Quand une nouvelle situation arrive, tu oublies. Tu ne te retournes pas pour regarder que même. Dieu n'avait pas déjà fait ce que Dieu n'avait pas devant. Il n'a pas agi en tant qu'avant. Tu commences à dire que non. Vraiment, Dieu m'a abandonné, c'est grave. Où est donc ta foi? Tu n'as même pas de mémoire par rapport à ce qu'il a fait avant. Ou bien, tu viens d'un trou. Tu étais dans un trou terrible dans lequel Dieu t'a sorti. Mais tu viens, tu retombes dans les mêmes travers. Les mêmes. Comme si tu ne te rappelais pas du genre de trou où tu étais tombé avant. C'est pas avoir le courage. Ne pas te retourner pour faire le point. Ne pas te retourner pour te rappeler de ce que ceci a eu lieu dans le passé. Par conséquent, voici comment je dois gérer le présent.
Homme au courage, ai-je conscient de cœur et d'oreille? Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos parents étaient, vous l'êtes. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'abord la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Amen.
Amen. La circoncision dont on parle ici, il faut bien faire le parallèle. Dieu au voisin de bien vivre. Tu ne lui as pas dit Dieu au voisin de bien vivre. Regardez le parallèle. La circoncision dans l'ancienne alliance était physique. La circoncision avec Jésus-Christ est spirituelle. Rappelez-vous d'un enseignement qu'on vous a donné ici, c'est que Jésus-Christ a rendu les choses de la dimension matérielle à la dimension spirituelle. Ici, quand on parle d'un circoncis, ce n'est plus les gens qui ne sont pas circoncis physiquement, ce sont les gens qui ne sont pas circoncis spirituellement. Il ne suffit plus avec Jésus-Christ d'avoir poussé la peau qui déborde. Et elle retrouvait ça après l'avoir parlé. C'était vraiment scientifique. C'est quand elle finit de parler que c'est revenu. Mais d'ailleurs, elle a défini. Non, c'est que quand nous, on a souvent des choses, les intellectuels sont dangereux. Il a le soin de utiliser le mot pour la définition. Quand quelqu'un te dit, tu souffres d'un défaut d'imagination et de jugement. Mais qui n'a pas voulu te donner le mot. Tu t'as donné la définition, ça a l'air politiquement correct. Alors, tu viens d'insulter. Mais vraiment, madame, vous souffrez d'un défaut d'imagination et de jugement. Hein. Quel mot c'est défini comme ça? La stupidité. Donc, je vais pas dire que tu es stupide. Ils vont vous trouver dans des fois d'imagination, mais je m'en parle, je t'en parle, je vais essayer le mot stupide. Donc,
amour
de douceur. Il y a des gars ici, c'est un petit peu quand tu applaudis. Donc, il est bon de savoir cela. Maintenant, on a dit quelque chose, parce qu'il faut voir un peu le fil. On a d'abord dit qu'il faut examiner les prophéties. On a aussi dit qu'il faut écouter les prophètes. Maintenant, on a vu que si on ne permet pas aux prophètes d'apporter des paroles d'avertissement, de repos, des paroles pour susciter, qui sont suscitées par l'Esprit Saint, des paroles qui exhortent, exposent le péché, exposent l'injustice, l'Église deviendra dans un endroit où la voix de l'Esprit de Dieu est inaudible. On en a là. Et que si on ne prend des coups de pas, si on ne permet pas au prophète de parler, on n'entendra plus quelqu'un. Tout le monde va parler, excepté Dieu. Il faut toujours accepter cette inflexion-là. Si vous pensez que le prophète doit vous dire seulement ce qui vous plaît, vous êtes en danger de mort. Le vrai danger de mort. Il faut le laisser parler. Les reproches aussi passent. Vous en êtes plus. Il y a des gens ici dehors, quand tu lui fais un repos, c'est la preuve matérielle selon lui que tu ne l'aimes pas. Mais c'est dangereux. Le jour où tu auras fait ça, tu fais ça, tu fais ça un jour par élan naturel et par habitation. Comment on dit en psychologie conditionnement? Un prophète se parle aussi, tu dis par Dieu. Laisse-moi. Tu viens de dire à Dieu, laisse-moi, dis-donc. Dieu, tu ne sais pas où tu as été les rancuniers. Regarde dans et regarde, tu ne sais pas ta parole. Tu ne prie pas. Tu ne gênes pas, tu ne fais rien. Appliquez la loi. Est-ce qu'on n'est pas compliqué? Appliquez. Dieu est miséricordieux pour ceux qui écoutent ta parole et la mettent en pratique. Sors du contexte là, tu trouves un lion visitant. Donc tu n'es même pas encore dans le cadre de ceux qui écoutent la parole, la mettent en pratique, t'en préoccupes. Tu penses que tu auras droit à la miséricorde. Nalaï. Tu manques. Alors on t'a menti. Donc il faut accepter les reproches venant des prophètes. Il faut accepter. Même si c'est pénible. Parce que c'est la possibilité pour toi de recadrer, d'arranger, de réharmoniser ta relation avec Dieu. Il faut accepter la vérité. Même quand ça expose le péché des injustices, il faut accepter. Sinon, l'église sera un endroit où on entend plus la voix de Dieu. Jean 16, le verset 8 à 11. Vous voyez, on est en train d'aller vers la fin, mais il ne faut pas que vous sautiez un épisode dedans. Sinon, ça ne va pas bien cuire. Jean 16, le verset 8 à 11. Qu'est-ce qui est écrit dans Jean 16, le verset 8 à 11? Bon, elle a déjà Jean 16, verset 8 à 11. Je demande aux autres de préparer 2 Timothée 3, le verset 1 à 9, 2 Timothée 4, le verset 3 à 5. Donc j'ai dit 2 Timothée 3, le verset 1 à 9, 2 Timothée 4, le verset 3 à 5. Oui, ma fille, apportez le micro, c'est bon.
Jean 16, verset 8 à 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. La justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me jugerez plus. Le jugement, parce que le prêtre de ce monde est jugé. Amen.
Lisez les autres passages.
2 Timothée 3, verset 1 à 11. Sachez que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, sans parents, aucun, l'ordinateur, rebelle à leurs parents, ingrat et irréligieux, insensible et loyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens du bien, frère, emporté, entré dans l'œil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est fait, pour en faire sa force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par les passions de ses espèces, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même, les Jeannette et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pourquoi tu as suivi de près l'enseignement de la conduite? La révolution, la foi, la douceur, la charité, le sang, l'interdiction, de se rendre à quelle souffrance l'espace est exposé à Antioche, le temps, à Lyse, quelle persécution n'est-ce pas supportée, et le Seigneur m'a délivré de tout. Mais...
Amen.
Dieu, voisin, voisin, éloigne-toi de ces hommes-là. Dis-lui encore, il n'a pas bien compris. Donc, en fait, lorsque la voix de Dieu devient inaudible dans une église, bon, l'église commence à couler à partir de la volonté humaine et des politiques ecclésiales. Donc le pouvoir mondial devient plus fort que le pouvoir de Dieu. Et puis bon, la volonté des hommes ainsi que la politique ecclésiale finissent par remplacer l'esprit de Dieu. C'est ce qui se passe. Comme je suis en mode de danger, je ne commence pas plus que ça. Continuons. Et si l'Église et ses dirigeants écoutent la voix des prophètes, ils seront poussés et renouvelés dans leur vie et dans leur communion avec Dieu. Leurs péchés seront pardonnés.
Amen.
Et la présence de Dieu sera évidente parmi les fidèles. On a fait parler de nous. C'est vrai. Dieu voisin, on a fait parler de nous. Dieu voisin, le plus grand est présent ici. Les deux derniers passages sont 1 Thessaloniciens 5, le verset 19 à 21. Laissez les enfants, vous avez noté, continuons, comment on conclut. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19 à 21. Et Apocalypse 3, le 20 à 22. J'aime votre activité, que je ne puisse pas vous en cacher la joie. Oui, j'apprécie quand vous reclamez un verset du livre. C'est la preuve que vous êtes concentré. Et c'est une joie considérable que dans un ministère comme ça, beaucoup de gens viennent avec leur bloc-notes, leur cahier. Soyez abondamment bénis pour tout le Seigneur et le Seigneur.
Amen.
Oui, la preuve que vous êtes vivant en Christ. Le micro là-bas en venir.
Thessaloniciens 5, verset 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit.
N'éteignez pas l'esprit.
Ne méprisez pas les prophéties.
Ne méprisez pas les prophéties.
Mais examinez toutes choses.
Et examinez toutes choses.
Retenez ce qui est bon.
Retenez ce qui est bon. Vous savez que les hommes disent souvent qu'on ne laisse pas le meilleur avec le divin. Donc il faut avoir de la mesure. Il faut avoir de la mesure. L'autre passage.
Apocalypse 3, verset 20 à 22.
Oui.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur une trône. Comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit et vive. Amen.
Amen. Je demande qu'on donne le micro à Michael pour qu'il relise posément ce passage d'Apocalypse qui est extrêmement important.
Apocalypse 3, du verset 20 à 22. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.
Au moment où nous achevons cet enseignement, je bénis abondamment l'Éternel de nous permettre ainsi d'avoir sa parole en partage. Je bénis abondamment le Seigneur Jésus-Christ d'avoir ainsi sa parole en partage. À l'instant où nous finissons cet enseignement, je demande au Seigneur de faire descendre une onction spéciale pour sceller cet enseignement à chacun d'entre vous. Recevez cette onction.